Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous avons prié le Seigneur demandant sa sagesse. Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs qui prennent un peu de temps pour venir écouter le conseil que tu as à nous donner. Je te prie, mon Dieu, que tu m'inspires et que tu les inspires et que chacun puisse y trouver son compte et grandir dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, il y a quelques jours de cela, j'ai mis une illustration sur Révélation Bible, Facebook, et qui représente les 10 vierges dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 25. Alors j'étais très étonné, en lisant certains commentaires, je me suis aperçu que beaucoup de croyants ne savent pas de quoi il s'agit, ou ne comprenaient pas la parabole. Alors, j'ai compris que le Seigneur voulait que je vous en parle ce soir. C'est une parabole. Jésus parlait souvent en parabole pour que les gens comprennent mieux ce qu'il voulait dire, et parfois, il parlait en parabole pour que ceux qui ne devaient pas comprendre ne comprennent pas. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, hein. Je vous lis le texte, c'est dans Luc chapitre 8, verset 10. C'est Jésus qui parle et qui dit... il vous a été, donc il parle à ses disciples, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ben, Dieu a ses raisons, c'est pas nous qui allons commencer à critiquer Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour toute chose. Et il se peut que vous n'ayez pas compris jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu, dans sa grâce, va ouvrir votre intelligence spirituelle pour que vous compreniez aujourd'hui. Les terrains changent, hein, un paysan sait que les terrains changent, c'est pourquoi il doit labourer, etc. Et des fois, les épreuves de la vie font que nous sommes plus à même de comprendre des choses que nous ne pouvions pas saisir autrefois, alors que nous étions... dans l'insouciance, ou enfin, il y a toutes sortes de raisons qui font que des fois on ne comprend pas, et puis tout d'un coup, voilà, on se met à comprendre, parce que c'est le temps. Alors, on va lire Matthieu chapitre 25, et verset 1. Voilà l'histoire, donc, des 10 vierges. Alors, il faut que je trouve le chapitre 25, voilà. C'est le verset 1. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors Jésus nous parle ici de vierges qui attendent leur époux. Ces vierges sont donc des personnes pures. Elles se sont gardées pures pour leur époux. On comprend ce que cela signifie. En fait, elles représentent les chrétiens sincères qui sont dans les églises, qui se gardent de pécher, qui se gardent de faire toutes sortes de mal. Qui se garde de tromper Dieu avec d'autres dieux, avec d'autres déesses, avec... elles sont vierges, c'est-à-dire elles ne servent pas d'autres dieux, en fait. Elles ne servent que Jésus, elles n'attendent que Jésus, elles ne comptent que sur Jésus. Elles ne comptent sur personne d'autre. Elles savent que Jésus est le seul intercesseur, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Elles ne vont pas se mettre à prier. Enfin, elles sont vierges, elles sont pures. Elles ne vont pas se mettre à, sous la coupe d'autres esprits. Non, elles restent fidèles à Jésus. Les folles comme les sages, hein. En fait, elles ne sont pas prostituées. Elles sont vierges, elles ne sont pas prostituées avec des religions idolâtres. Et leur seul Seigneur, c'est Jésus. Elles ont une lampe à huile, pour s'éclairer. Cette lampe, c'est ce que contient l'huile. Vous vous rappelez les lampes à huile d'autrefois? Et ces lampes, cette lampe, c'est le symbole, l'huile, pardon, c'est le symbole du Saint-Esprit, de révélation. Le Saint-Esprit nous rappelle les choses que Jésus a dites, et voilà, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, et la lampe, qui contient l'huile, c'est le symbole de leur vision, de leur regard. Alors, d'où est-ce que je tire ça? Eh bien, toujours de la Bible. Il faut, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours bien connaître les Écritures pour savoir de quoi Jésus parle. Quand il parle de quelque chose, ça n'est pas par hasard. Il y a une analogie de la foi. Les choses vont ensemble. Donc, dans Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23, il est dit, c'est encore Jésus qui parle, il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans des ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes sont ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il faut être fidèle. Vierge, fidèle à Jésus, en attendant les noces de l'agneau, les noces, c'est à la fin quand on rejoindra le Seigneur. Alors, donc, la lampe, c'est ton œil, c'est ton regard, c'est ta vision. Comment est ton regard? Comment regardes-tu la vie en général? Quel est ton regard sur Jésus, sur ta famille? Quel est ton regard sur l'Église? Quel est ton regard sur, enfin, sur tout? Comment est-ce que tu vois les choses? Alors, on peut être myope spirituellement, c'est-à-dire on ne voit que de près. Vous savez, les myopes, hein? On peut être hypermétrope. Hypermétrope, c'est quelqu'un qui ne voit que ce qui est loin, il ne voit pas ce qui est près, il ne voit pas ce qu'il y a sous son nez. Il y a des gens qui sont astigmates. Hein, Jésus, je vous rappelle, Jésus dit, la lampe des vierges, c'est leur regard, leur vision. Et il y en a qui sont astigmates, c'est-à-dire avec une vision de Jésus qui est déformée. Quelqu'un qui est astigmate, sa vision est déformée. Et beaucoup de personnes ont une vision déformée de Jésus, déformée par leur religion. Leur religion leur a enseigné des choses erronées, et alors ils ont une vision déformée de Jésus. Ou ils ont une vision déformée à cause de leur obstination à ne pas vouloir voir la vérité. Et ils disent, non, moi j'ai la religion de mes parents, je ne veux pas quitter la religion de mes parents, et puis ils restent là-dedans, et puis ils sont obstinés, et puis voilà. Et leur vision est déformée, parce que elle est plus selon les dogmes, les traditions, que selon les Écritures saintes. As-tu d'étranges idées tordues au sujet de Jésus, de la religion, des gens, de la vie en général? Ben, eh bien, peut-être que tu es spirituellement astigmate. Il y en a qui ont des cataractes. C'est-à-dire, une cataracte, c'est une opacification du cristallin dans l'œil. On se fait opérer d'une cataracte très facilement maintenant. Mais spirituellement, ça veut dire que tes jugements spirituels sont sclérosés par des préjugés. Là, il y a une dame qui m'écrit, elle est persuadée que je suis témoin de Jéhovah. Et alors elle m'accuse, oui, vous laissez tuer les enfants, vous leur faites pas de transfusion de sang. Elle est persuadée, je suis témoin, je sais pas où elle était chercher ça. Alors je lui réponds, non, vous trompez complètement. C'est une personne qui a une cataracte spirituelle. C'est-à-dire qu'elle est pleine de préjugés, ses jugements spirituels sont sclérosés par des préjugés. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ont des préjugés. Ton œil est ta lampe. C'est ce que Jésus dit. Où Peut-être que tu as une, c'est plus rare, une amaurose. Qu'est-ce que c'est l'amaurose? Eh bien, l'amaurose, c'est une vue qui est. Quand on a la vue troublée à cause d'une intoxication. C'est-à-dire, tu as une vision de Jésus qui a été empoisonnée par des doctrines étrangères aux Écritures. Alors, tu souffres d'une amaurose. Vous voyez que ce n'est pas simple. Tes yeux, ton regard sur Jésus, sur la vie, sur la religion, sur la famille, etc., peut être faussé. Tes yeux, ton regard, ta lampe, est-ce que tout ça c'est en bon état? Parce que si ton regard n'est pas sain, la lumière que tu as, elle est ténèbre. Jésus dit ça, hein? Tu as de la lumière, mais elle est ténèbre. Ta lumière est ténèbre. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la lumière, mais en fait, leur lumière est ténèbre. Laisse-moi te dire ça. Regarde-toi face à l'Écriture sainte. Et puis regarde de quoi tu souffres. Pourquoi est-ce que tu ne regardes pas simplement les saintes Écritures pour te faire une idée juste de qui est Jésus? Quelle est la place de la famille? Quelle est la place de l'Église? Quelle est la place en regardant ce que Jésus et les apôtres disent. Pourquoi est-ce que tu vas chercher ailleurs? Dans des religions bizarres, étranges, des traditions inventé par les hommes. Quel regard as-tu sur toutes ces choses? Donc voilà nos 10 vierges qui ont tout un regard, c'est-à-dire une lampe, et elles vont à la rencontre de leur époux. Et ça, c'est la marche du chrétien dans notre vie. On marche, on va de l'avant, on va à la rencontre de notre époux. On sait que l'Église de Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des gens qui sont destinés à être l'épouse de Christ. Toute l'Église n'est pas l'épouse de Christ, parce que dans l'Église, vous avez toutes sortes de gens. Vous avez des vierges, vous avez folles et des vierges sages dans l'Église. Donc ce sont des chrétiens purs, vierges, qui ont une bonne lampe, un bon regard, une vision juste. Mais cinq d'entre eux, ces chrétiens sincères, n'ont pas pris la peine de prendre une réserve d'huile. Et c'est en cela qu'elles sont folles. Les sages, par contre, elles ont pris de l'huile dans des vases, une réserve, au cas où. Elles ont une réserve au cas où leur époux tarderait à arriver au point de rencontre. Et c'est ce qui est arrivé, l'époux tarde, c'est ce que nous disons dans le texte, hein, l'époux tarde, voilà. Alors, les 10 vierges, elles attendent, et puis elles s'assoupissent, elles s'endorment. Alors, en fait, regardez bien ça. Les folles et les sages dorment. Il n'y a pas que les folles qui dorment, les sages aussi dorment. Et en ce moment, beaucoup de chrétiens sincères, véritablement sincères, dorment. Dorment, ils sont dans une espèce de sommeil. Ils font des rêves ou des cauchemars, ils dorment. Ils sont plus ou moins dans une espèce d'inconscience. Et tout à coup, une voix se fait entendre. Il est écrit « On cria ». Qui est ce « on »?« On cria l'époux vient ». Qui est ce « on » ?« Eh bien, aujourd'hui, c'est moi ce « on ». Je vous dis « Jésus revient ». Alors faites attention, préparez-vous, soyez prêts. Hein, il faut que votre lampe soit nette, il faut que vous ayez les bons regards, il faut que vous ayez une réserve d'huile. Jésus revient. On cria, au milieu de la nuit, on cria, l'époux vient. Il n'y a pas que moi, bien sûr, il y a beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui disent que Jésus revient. Et ce on, ben, c'est tous ces gens qui alertent en disant, voilà, Jésus revient. Alors tous ces chrétiens se réveillent. Les 10 vierges se réveillent et elles préparent leurs lampes. C'est-à-dire, elles reprennent leurs esprits, elles ajustent leur vision sur le lieu et sur le temps où elles se trouvent. Voilà, bon, tu sais, comme quand on se réveille, des fois, moi je voyage beaucoup et des fois j'ouvre les yeux, je dis, mais je suis où là? Je ne sais plus dans quelle ville, dans quel pays. Et ça vous est déjà arrivé sûrement aussi. Donc elles se réveillent, elles préparent leurs lampes, c'est-à-dire elles mettent leur regard, leur pensée, tout ça en ordre. Alors, mais voilà que les cinq de ces chrétiens s'aperçoivent de leur erreur. Elles n'ont pas assez d'huile. Oh là là là, non. Les lampes s'éteignent. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est-à-dire, elles n'ont pas ce qu'il leur faut pour être éclairées jusqu'au bout. Si vous voulez, par exemple, Ben, elles n'ont pas de Bible avec elles. Ou alors, elles n'ont pas la connaissance spirituelle nécessaire. Ou alors, elles ont la connaissance spirituelle que Dieu avait donnée dans les années 1715 ou dans les années 1950. Où elles n'ont pas ce que Dieu dit aujourd'hui. Elles n'ont pas la réserve d'huile, elles n'ont pas la révélation de ce que Dieu révèle à son Église aujourd'hui. Bref, elles voient qu'elles ont fauté et elles n'ont pas pris de réserve. Elles n'ont pas écouté les conseils que leur donnaient les envoyés de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles se tournent vers celles qui ont une réserve, elles disent « il faut nous en donner parce qu'on n'en a plus assez ». Et quelle est la réponse des vierges sages? Ben, c'est lapidaire, hein. C'est non. Non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Ça me fait penser à Noé, quand il a averti le peuple qu'il allait avoir le déluge, et puis un jour c'était trop tard. Voilà. Ben, là, c'est la même chose. Non, c'est trop tard. Et si on vous en donne, on n'aura pas assez pour nous, il n'aura pas assez pour vous et pour nous. Donc non, on ne vous en donne pas, débrouillez-vous. Et puis... Allez chez ceux qui vendent de l'huile. Là, c'est un peu ironique, là. Allez chez ceux qui prêchent l'abondance. Allez chez ceux qui prêchent qu'il faut acheter son salut par des bonnes œuvres. Allez chez ceux qui vendent des messes pour votre salut. Allez chez ceux qui vendent des cierges, des médailles bénies, de l'eau bénite. Aller acheter le Saint-Esprit chez ceux qui le vendent. Vous voyez, c'est un petit peu ironique. Mais aujourd'hui, vous avez plein de gens qui vendent le salut. Le salut, c'est une grâce. On ne peut pas l'acheter. Et là, ces vierges sages, ben, elles se moquent un peu. Vous allez me dire, c'est pas gentil. Oh, c'est peut-être pas gentil, mais enfin, quand même, ça fait suffisamment longtemps qu'on vous dit que le salut ne s'achète pas par les bonnes œuvres que vous faites. C'est pas parce que vous faites des bonnes œuvres que vous allez être sauvés. Vous êtes sauvés simplement parce que vous croyez que Jésus est votre sauveur. Et parce que vous croyez que Jésus est votre sauveur, alors vous faites le bien. Faut pas inverser les choses. Faut pas penser que vous allez pouvoir gagner votre salut, l'acheter. Je soupçonne les vierges sages de se moquer un peu des vierges folles. Ben, c'est aussi un peu chacun son tour. Hein. Les vierges folles, en ce moment, elles se moquent un peu de nous parce qu'elles disent qu'on est simplistes. Que... Enfin bon. En tout cas, Jésus raconte ça comme ça. Alors nos cinq folles courent. Elles courent de pèlerinage en pèlerinage, de convention spirituelle en convention spirituelle. Elles vont vite chercher, n'est-ce pas, l'homme de Dieu qui pourra leur donner ce dont elles ont besoin, la portion de l'esprit qui leur manque. Elles courent acheter de l'huile dans des églises de la prospérité qui vendent des prières, qui vendent des bénédictions. Là, j'ai vu, là, il y a encore un, là, ils vendent des petites fioles d'eau. Il a prié là-dessus, puis il les vend. Mais c'est abominable, c'est abominable. Il y a des gens qui marchent là-dedans, hein, qui croient des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'époux arrive, et les cinq chrétiens sages entrent dans la salle des noces avec lui. Vous savez que Jésus dit que ça sera les noces de l'agneau. Donc les vierges sages, les chrétiens sages entrent dans la salle des noces avec lui, et flac, la porte est fermée. Un moment après, les cinq folles arrivent, mais c'est trop tard. Alors elles tapent à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Seigneur, Seigneur! Je me rappelle que Jésus a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront au royaume de Dieu, c'est ceux qui font ma volonté. Seigneur! Et Jésus leur répond, je ne vous connais pas. C'est terrible ça aussi. Vous aimeriez entendre ça, vous? Que Jésus vous dise, je ne vous connais pas? Et Jésus termine sa parabole en nous disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est terrible. Alors on pense toujours au retour de Jésus, on sait ni le jour ni l'heure, mais on ne sait pas non plus le jour et l'heure de notre mort. Vous ne savez pas si vous vivrez demain. Même peut-être ce soir, vous avez des projets, et paf, une voiture vous renverse, vous vous trouvez aux urgences et vous passez de l'autre côté, hein. On ne sait pas ni le jour ni l'heure, il faut être prêt tout le temps. Il faut être prêt tout le temps à rencontrer notre Dieu. Tout le temps. Pourquoi Jésus raconte-t-il cela? Eh bien, pour nous avertir de deux choses, mes frères et sœurs. Un, pour que nous nous assurions que notre lampe, notre vision spirituelle, est la bonne, et non une vision erronée de tradition, de dogme, de religiosité humaine, dégoulinante, de bons sentiments, certes, mais fausse. Il faut que vous assuriez que votre lampe, que votre vision spirituelle est bonne. Et la deuxième chose, il veut que vous soyez prudent et que vous écoutiez ce que l'Esprit, l'huile, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit dit à l'Église à notre époque. À notre époque, je vous le dis depuis des mois, des années, nous sommes dans le rétablissement de toute chose qui était annoncée, qu'on trouve dans Actes chapitre 3, verset 21. Nous devons avoir l'huile, le Saint-Esprit, dans notre vision, la réserve nécessaire, c'est-à-dire l'huile du Saint-Esprit qui révèle aujourd'hui aux chrétiens ce qui les éclairera dans les derniers moments. Parce que l'Église est devenue tellement malade qu'elle a besoin de rétablissement. Voilà ce que Jésus dit. À la fin, Jésus reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. Est-ce que vous êtes dans le rétablissement? Ou est-ce que vous êtes toujours avec la foi dans ce qui se passait du temps de, je sais pas moi, de Wesley ou de Martin Luther ou de... Non, les choses... Jésus ne change pas, mais la révélation est progressive. Et en ce moment, Dieu est en train de révéler à son Église des choses, pas nouvelles, mais il est en train de rétablir des choses anciennes. Alors les chrétiens, oh, moi, je ne sais pas ma doctrine, non, moi je pense que... Par exemple, là, j'ai affirmé sur Révélation Bible que nous sommes sous le quatrième sceau. Et quelqu'un m'a écrit, moi je pense que nous sommes sous le sixième sceau. Ben, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais la révélation de Dieu, c'est que nous sommes sous le quatrième sceau. Et il y a des raisons à cela. Nous ne pouvons pas être sous le sixième sceau. À partir du cinquième sceau, l'Église a été enlevée. Il n'y a plus d'être vivant, c'est-à-dire il n'y a plus ni de cheval, ni d'être vivant. Vous lirez ça dans l'Apocalypse. Dans les quatre premiers sceaux, vous avez des êtres vivants qui ont une influence sur l'Église, et puis vous avez un être vivant, des chevaux, enfin, il y a tout un contexte qui fait qu'on peut comprendre que nous sommes, puisque l'Église n'a pas encore été enlevée, nous sommes dans le quatrième sceau. Et après, ça sera la grande tribulation et toutes ces choses. Maintenant, c'est que le début de la grande tribulation. C'est que le début. Ça n'est pas encore. Alors, vous dites, moi je pense que, mais tout le monde s'en fiche de ce que vous pensez. Ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit révèle réellement. Et Dieu ne fait jamais rien sans révéler ces choses à ses prophètes. Il ne les révèle pas au Kidam. Non, c'est à ses prophètes qu'il révèle. Vous pouvez penser que, mais ça n'a pas de valeur. Excusez-moi, pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais il faut de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a me donné des prophètes pour que la parole du jour soit donnée au jour où il faut. Et nous sommes sous le quatrième sceau. Si vous ne savez rien au sujet de ce que Jésus rétablit en ce moment dans son Église, dans ces derniers temps, eh bien vous prenez le risque de vous retrouver devant la porte du ciel fermée. Seigneur, Seigneur, c'est nous, ouvre-nous! Ou alors vous avez entendu, mais vous avez mis ça de côté, puis vous avez dit, oh, ça, c'est pas si important que ça, c'est pas très important. Voilà pourquoi j'enseigne ces choses. Parce que nous, les chrétiens, nous devons nous attacher à la parole de Jésus et des apôtres. Nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Un jour, Jésus parlait à des Sadducéens. On trouve ça dans Marc 12, 24. Et il leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comprendre les Écritures nous donne un bon regard sur la personne de Dieu, sur la vie en général, sur notre devoir, sur la famille, sur tout, et surtout sur le plan du salut en Jésus-Christ. Comprendre les Écritures, c'est vraiment très, très important. Mais pour les comprendre, déjà, faut-il les lire? Il y a des gens qui disent, oh, j'ai pas besoin de l'écriture, j'ai pas besoin de la Bible, le Saint-Esprit m'inspire. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la puissance de Dieu doit être connue par celui qui se dit chrétien. La puissance de Dieu. Connaissez-vous la puissance de Dieu? Un chrétien qui connaît la puissance de Dieu a cette assurance que Dieu est le Dieu qui agit et qui ne laisse rien au hasard. Et un enfant de Dieu qui sait ça, ben il est comme son Père céleste, il ne laisse rien au hasard. Il a la vision claire et juste, selon les Écritures, et l'huile qui est le Saint-Esprit de puissance, pour être un témoin en esprit et en vérité. Alors êtes-vous chrétien? Oui. Sinon vous n'auriez pas perdu votre temps à m'écouter jusque-là, hein? Mais quelle sorte de chrétien êtes-vous? Quelle sorte de vierge êtes-vous? Folle ou sage? Ce n'est pas à moi de répondre, c'est à vous. Il n'y a que deux personnes qui savent si vous êtes une vierge folle ou une vierge sage. Dieu et vous. Moi, je ne peux pas vous juger, je ne sais pas. Mais Dieu sait et vous, vous savez. Alors que vous m'écoutez maintenant, je vous demande de mettre votre main sur votre cœur et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie que chaque personne qui m'a écouté jusque-là prenne conscience de qui il est et qu'il fasse la paix avec toi s'il en a besoin et se mette en ordre afin d'avoir cette réserve d'huile qui est nécessaire parce que tu reviens bientôt. Merci Seigneur Jésus d'éclairer mon frère, ma sœur, qui écoute en ce moment, de lui donner une bonne vision juste selon les Écritures de qui tu es, de qui il est, de qui elle est. Je te demande, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de guérir le regard de ceux qui sont myopes ou astigmates ou qui ont une cataracte spirituelle. Je te prie, Seigneur Jésus, de leur donner une bonne vision et de leur permettre de faire et de prendre avec eux la réserve dont ils ont besoin, sans laquelle ils ne pourront pas aller au repas des noces. Je te prie, Père, sérieusement, dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, à bientôt. Dimanche, on va continuer la série de prédications. Je pense que je vais arriver au bout. Que Dieu vous bénisse. Et alors, oui, au sujet, par exemple, de cette prédication, je parle du Shabbat. Il y a des gens qui me donnent leur avis, mais je m'aperçois qu'ils n'ont même pas écouté le message enregistré que j'ai donné. Et ils me donnent leur avis. C'est très gentil de me donner votre avis, mais écoutez au moins ce que je dis, parce que la plupart des gens qui me donnent leur avis ne font que de répéter ce que j'ai dit, ou de dire exactement le contraire, en disant, moi je pense que, mais ça n'est pas basé sur les Écritures. Enfin bon, il y a une telle confusion dans les églises. Mes frères et sœurs, je prie pour que, si vous êtes dans la confusion, eh bien, Dieu éclaire votre regard, purifie votre regard, que vous sachiez où vous en êtes et où nous en sommes dans l'histoire de ce monde, avec l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Au revoir, à bientôt.